Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Bienvenue dans Biotope, votre émission qui relate les initiatives prises par des citoyens, des associations, des entreprises pour faire en sorte que cette vallée de la Drôme soit la plus bio possible. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux enjeux de l'installation de nouveaux agriculteurs, des enjeux et des difficultés, car ce n'est pas facile. Hein. J'ai entendu récemment qu'il y avait énormément plus d'agriculteurs qui quittaient le métier que ceux qui s'installaient, et pourtant, c'est toujours aussi difficile de trouver des terres agricoles. Alors avec moi dans le studio, Short Vartenard, agriculteur retraité et bénévole dans l'association Terre de Liens, dont l'objet est de trouver des terres agricoles pour les postulants à l'installation. Sylvie Torigna, une paysanne spécialisée dans les plantes aromatiques installée à Die depuis 2009. Et enfin Delphine Poron, qui est en cours d'installation. Bonjour à tous.
Bonjour.
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 Alors, comment se fait-ce que ça soit aussi difficile de s'installer en agriculture ?
Bon, pour s'installer dans l'agriculture, c'est difficile parce qu'on a un type d'agriculture qui est plus important en partie, c'est industriel. Ce sont des grandes entreprises qui sont difficiles à transmettre. À côté de ça, on a tout un mouvement de l'agriculture paysanne, de l'agriculture bio, de l'agriculture, ce que j'appelle l'agriculture, qui correspond à son entourage social, qui a une énorme difficulté de trouver un entourage, pas seulement de la terre et des bâtiments, mais aussi une aide dans la situation qui fait qu'en Europe, produire l'alimentation doit être subventionnée. On ne subventionne pas du tout, justement, ces installations que j'appelle polyculture et élevage, transformation à la ferme, vente à proximité, même régionale, je l'appelle proximité. Et tout ça, c'est dans la politique agricole totalement terrain inconnu.
Alors ça, c'est un constat qui concerne la France dans son ensemble et peut-être aussi même l'Europe.
Hélas, c'est une situation qui est partout dans le monde, on peut le dire. On entend beaucoup parler de land grabbing en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. On voit que partout, sous le prétexte hypocrite qu'il faut nourrir le monde, des grandes sociétés s'investissent dans des grands projets, ce qu'on appelle des cash crops, et qu'ils prennent des terres des populations locales partout. Et bon, on a des exemples horribles de ça, mais c'est ce qui se passe. Et ça se passe en Afrique, ça se passe en Amérique du Sud, ça se passe en Europe de l'Est. Ça se passe en Europe de l'Est, mais aussi dans l'Union européenne, dans Roumanie, Pologne, Lituanie, etc. Mais ça se passe aussi de petit à petit en France, parce que on a là aussi un modèle industriel qui s'agrandit et qui produit pas de l'emploi, et qui est totalement concentré sur le marché mondial d'une certaine façon. Et à côté de ça, on essaie de changer les choses, mais on n'a pas le vent politique en poupe. Malgré un changement de PAC plus ou moins reverdi, malgré le bon parole de M. Le Folk actuellement avec le nouveau loi agricole, sérieusement, on parle par exemple de 20% de bio en 2020. Ça coûte une énorme somme de l'argent pour vraiment y arriver et ça demande un changement de mentalité qui n'est pas du tout encore dans les mœurs officielles.
Alors, off micro, tout à l'heure, vous me parliez de statistiques effrayantes. Tous les 4 ans, l'équivalent d'un département français disparaît en termes de terres agricoles.
Absolument. Absolument. C'est un chiffre que récemment, j'ai lu ça de M. Robert Levesque de FNS Affaires qui a dit ça sur un congrès. C'est clair et net que ça va dans ce sens. Bon, il faut toujours interpréter ce chiffre parce que est-ce que le forêt est là-dedans, est-ce que les zones artisanales, les routes, le TGV, etc., l'urbanisme,
tous ces petits
quartiers, voilà, c'est tout un mélange. Mais à ça, il faut ajouter encore le terre qui est occupée par une production industrielle de biofuel, le gazole fait par le maïs et le céréal.
Donc ce constat est effrayant, mais alors localement, puisque c'est une émission, je vous le rappelle, qui s'occupe de ce qui se passe dans la Biovallée. Et justement, Monsieur Vartena, vous faites partie de cette association Terre de Liens. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer concrètement ?
Bon, on pense que si on attend que la politique change et que la terre devienne vraiment beaucoup plus considérée comme un bien commun qui appartient à tout le monde, on peut attendre encore très 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 longtemps. Donc on a dit, écoute, on va arrêter de dire il faut, on va faire. Et on a fait une amélioration de le groupement foncier agricole qui était trop petit et on a organisé nationalement un mouvement qui a créé deux outils financiers, une société d'investissement et une fondation. Et actuellement, le fonds d'investissement a réussi à trouver 10 000 actionnaires qui, ensemble, ont actuellement autour de 35 millions d'euros avec lesquels on a acheté 100 fermes. C'est rien. Comparé avec ce qu'il y a en France, c'est rien. Mais le fait que c'est national, le fait que dans peu de temps, en 3-4 années, on a trouvé 35 millions d'euros, le fait que les régions sont quand même intéressées parce que leurs électeurs demandent quand même des terres pour des AMAP, pour une production autour qui est en train de disparaître, etc. On a, avec cette démarche, alerté une certaine opinion publique et on est consulté, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe. C'est un peu la même chose avec la MAP et c'est un peu la même chose qui se passe avec dans le monde de finance, avec la NEF, Nouvelle Économie, avec qui d'ailleurs on a fondé ensemble cette société d'investissement. Ça s'appelle dans l'énergie, les NERCOP, etc. Bon, c'est un mouvement et le seul but de Terre de Liens aussi, c'est d'essayer de faire partie d'un mouvement beaucoup plus global de changement.
Alors concrètement, est-ce que vous avez des exemples dans le Diwa ou dans la vallée de la Drôme qui ont abouti à l'installation?
Absolument. On a un très bel exemple ici dans la commune de Saint-Dizier où le maire Robert Delange me téléphone un jour et dit j'ai des fermes, il y a une ferme à vendre chez nous, j'ai pas le sou pour la commune n'a pas le sou d'acheter, est-ce que Terre de Liens peut le faire? J'ai dit si on trouve des actionnaires autour de ce projet et dans ton entourage, etc., jusqu'à une certaine hauteur, on trouve le reste ailleurs et on va essayer de le faire. Et actuellement, on a deux fermes en Saint-Dizier. On étudie même éventuellement une ferme en Val-Drôme, c'est totalement nouvelle encore. On a une ferme à Upi et on a dans la Rhône-Alpes une quinzaine de fermes en total. C'est surtout ici dans le Diwa aussi, l'idée c'est qu'on aide des gens qui viennent chez nous et disent « j'ai un projet, j'ai trouvé une ferme et j'ai pas de sous pour acheter ». Dans ce cas, on va étudier le cas et dire si le projet c'est bien, etc. Et on va essayer de l'aider et d'installer. Et bon, comme je dis, Saint-Dizier, c'est fantastique de voir le fait que deux familles avec des enfants sont installées. Ils sont même trois, je crois. Saint-Dizier sont trois fermes. Une ferme, une petite partie, c'est encore une autre entreprise. Amène des enfants, amène la vie au village. On a un comité local qui aide les gens à l'installation, à mettre les routes, échanger les tracteurs, etc. Et donc c'est un très bel exemple comment, si on réagit et si une commune et la collectivité locale sont positifs et veulent changer les choses, on peut ensemble avec les sociétés civiles changer les choses. Et ça, c'est des exemples comme ça, il y en a partout. Et comme je vous ai déjà dit, il faut que toutes ces petites signes d'espoir se mettent ensemble dans un mouvement qui est encore beaucoup plus clair et visible pour dire qu'on peut faire les choses autrement.
Alors ça me permet de rebondir quand vous parlez d'implication des collectivités locales. On a entendu récemment cet exemple de Raymond Biglia, maire de Romeyé, qui vient d'investir dans l'achat de terres agricoles pour permettre l'installation de nouveaux agriculteurs. Je vais peut-être me tourner maintenant vers... On commence par qui? Sylvie ou Delphine, sur leur témoignage sur le parcours du combattant, parce qu'il faut du courage pour s'installer en agriculture de nos jours. La première question que j'aimerais vous poser à l'une d'entre vous, c'est est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu dans votre démarche pour s'installer localement?
Oula. Moi, je dirais que oui, j'ai sûrement été soutenue. Alors localement, par les gens, par les agriculteurs autour de la parcelle, dans le lien que j'ai avec d'autres agriculteurs en activité. Je ne pense pas que les collectivités territoriales m'aient grandement aidé. Bon, après, on a toujours la Chambre d'agriculture qui nous... Enfin, et puis c'était à l'époque la DASEA qui nous installait. Donc oui, j'ai été aidée puisque j'ai eu la DJA. Après, moi, nouvelle arrivante à Die, pas fille d'agriculteur, je trouve que j'ai de la chance. Et puis, c'est sûr que la chance, on se la fabrique tous les matins, toute la journée, et que c'est pas évident, mais comme nous, on n'a pas fait l'armée, on savait pas ce que c'était un parcours du combattant, et puis, on y est, quoi.
Alors, mais concrètement, est-ce que tu pourrais lister les aides que tu as pu, à part la DJA, puisque ça, c'est classique, mais est-ce qu'il y a des organismes publics qui t'ont aidé?
À des organismes publics?
Oui. Quand tu as parlé de la Chambre d'agriculture, qu'est-ce qu'ils proposent comme soutien aux agriculteurs? Ou il n'y en aurait-il pas?
Non. Non, parce que dans le parcours à l'installation, il y a. Alors moi, j'ai fait le parcours avant 2009. Donc en 2009, ça a changé le parcours à l'installation. Ils ont tout un tas de stages, etc. Moi, j'en ai fait qu'un de 3 jours où j'ai vu défiler tous les gens, la banque, les assurances, etc. Au BPREA, on avait déjà vu tout ça. J'ai pas eu l'impression d'apprendre grand chose. Toujours est-il que maintenant, je sais qu'il y a des stages obligatoires, que les gens sont... Enfin voilà, moi j'ai pas eu tout ça. Après, moi j'étais quand même pas mal aidée par les agriculteurs autour. Dans les collectivités, c'est à peu près tout. Hein.
Une question que je me pose, quand les agriculteurs se retirent, ils partent à la retraite, y a-t-il un organisme qui recense toutes ces terres qui se libèrent et qui proposerait ça à des nouveaux arrivants? C'est peut-être un vœu pieux, hein, je ne sais pas si ça existe.
La DACIA,
c'est ça. C'est absolument, qu'on sait très bien faire partout, c'est recenser. Oui. Recenser, c'est fantastique. On sait qu'ils sont des paysans qui vont être... Mais on peut carrément dire que 90% de terres qui se libèrent ou qui doivent être transmises, il va à l'agrandissement. Beaucoup de paysans, surtout dans le Diwa aussi, des vieux, ils disent c'est fini l'agriculture, on peut pas y faire, ils veulent même pas que ça va réussir. Et encore ici, on est dans une situation plus avantageuse qu'ailleurs, parce que on a la Drôme, c'est le premier département biologique de la France. On est dans le Bio Valais. À Die, ils font beaucoup de bio, donc c'est encore moins grave qu'ailleurs. Mais de toute façon, ce que je dis depuis que j'ai toujours m'occupé pas mal avec ou participé à des réflexions dans la commission agricole de communes, etc. Mais j'ai toujours dit, mets-moi tous les grands propriétaires agricoles autour du table et laissons-nous faire ensemble un changement et dire de quelle façon on peut augmenter le nombre de paysans. Pourquoi vous ne laissez pas une partie de votre terre à quelqu'un qui fait de l'horticulture, etc. Et ils disent, ça n'existe pas. Mais c'est jamais fait. Et il faut faire des choses comme ça.
Parce que les exploitations qui sont recensées aussi, c'est des fermes entières qu'on n'aura jamais les moyens d'acheter, quoi. Enfin, sauf à avoir la participation de Terre de Liens, mais sinon... Donc c'est un rapetissement des tailles d'exploitation et c'est de trouver des parcelles. Nous, on n'a pas besoin de fermes en pierre de 500 mètres carrés avec des granges et compagnie. C'est 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares et on habite en ville.
Voilà. On est plus près du consommateur en ville.
Alors Delphine, justement, toi, dans ton parcours pour t'installer dans cette petite surface maraîchère, si je ne m'abuse.
Oui, 1 hectare, oui.
Donc comment ça s'est passé? As-tu eu du soutien?
Oui, beaucoup. Moi, c'est les Compagnons de la Terre qui ont trouvé ce terrain et qui le proposaient à des porteurs de projets pour 2 ans. Bon, j'ai fait une année de plus. Et puis les Compagnons m'ont laissé le terrain, ce qui fait que je suis toujours là. Et voilà. Et puis la communauté de communes qui est propriétaire du terrain, qui a accepté de faire un bail pour que je puisse m'installer pour de bon. Donc oui, ça fait 2 beaux soutiens. Quoi.
Et ça t'a pris combien de temps entre le...
À peine 5 ans.
5 ans. Faut en vouloir, quoi.
Bah, c'est... Ouais.
Et alors, tu avais des biscuits financiers derrière toi ou est-ce que...
Non, pas du tout. Ça, c'est... Voilà, la grosse aide des Compagnons, c'est qu'on peut démarrer l'activité sans faire d'investissement lourd et voir comment ça se passe. Éventuellement faire des sous petit pour pouvoir acheter un peu du matos progressivement. Et puis là, je fais une demande de DGA pour pouvoir passer à la vitesse supérieure.
Les Compagnons de la Terre t'ont proposé aussi donc un soutien financier, si j'ai pas compris.
Les Compagnons de la Terre achètent le matériel, ou en tout cas à l'époque où j'étais aux Compagnons, c'était comme ça. Donc on dispose du matériel qui est acheté par les Compagnons, ce qui permet de pas acheter de matos cher quand on démarre, quoi.
Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin d'avoir des surfaces énormes parce qu'on fait tout de A à Z. C'est-à-dire que de la plantation à la transformation à la vente en direct, on est obligé d'avoir des petites surfaces pour avoir le temps de transformer et puis pour avoir le temps de vendre. Et ça nous permet, nous, de dégager, on se crée notre emploi. Je pense que du coup, on offre des produits de qualité aux gens. Et effectivement, on n'a pas besoin d'avoir 15 hectares, etc. On est dans des formes d'agriculture où...
Qui pose problème aussi, moi, je vois, par rapport à ma surface et au clou de la chambre d'agriculture. Ouais. Je suis pour eux sur une surface très limite. Alors que pour moi, ça me paraît immense, vu qu'après la récolte, je ne me contente pas de mettre dans des caisses et d'amener au marché. Ça passe tout par la cuisine. Et un hectare à cultiver, puis à transformer, puis à vendre, c'est énorme, quoi.
On en revient à ce que vous disiez au début, monsieur Vartena. Pour l'instant, la PAC valorise un modèle industriel pour l'exportation, ce qui est très important pour équilibrer notre balance commerciale. Ce n'est pas pour l'agriculture vivrière.
Il ne faut jamais généraliser totalement, mais en gros, c'est quand même comme ça. Et je veux seulement dire une chose. Bien sûr, l'horticulture, le plante aromatique, surtout transformation, n'a pas besoin de beaucoup de terrain. Si tu as 60 chèvres, comme nous avons toujours eu à Vacher-en-Quin, on a besoin un peu plus de terrain quand même. Mais même quand une ferme peut être grande, moi j'ai des exemples dans des autres pays, des fermes qui ont 300-400 hectares, mais là-dessus, il y a un atelier de boucherie, il y a un atelier de réception des vieux, il y a un salon de thé, ils ont toute une série de différentes activités qui sont liées, mais ça aussi ça peut être une ferme très moderne et très liée à son entourage social sans qu'il est petit. Ils sont dans différentes structures, mais c'est vrai que si surtout on va beaucoup plus vers l'horticulture que vers la production de viande, qui est quand même, si on le veut ou pas, le futur dans lequel le monde doit aller s'il veut survivre, on a un intérêt à soutenir justement Delphine et Sylvie qui sont, comme tu dis, 5 années avant que, enfin, ça prend du temps et ils sont soutenus avec une dotation des agriculteurs, mais l'horticulture en soi ou le plant aromatique sont pas soutenus comme le céréal ou le brebis. Et ça, c'est une aberration totale. On peut, si on change légèrement, bien changer la politique agricole en commun, dans cette direction, on peut créer des plateformes qui fournissent des cantines, etc. Tout ça, c'est une question de volonté politique qui n'est pas du tout encore là.
On en revient à ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits courts et puis agir local, quoi. Il ne s'agit pas de produire pour l'Afrique du Nord ou importer des bananes, quoi. Et alors, vous deux qui vous êtes lancés depuis récemment, est-ce que vous arrivez à en vivre? Parce que j'ai l'exemple de quelqu'un, je ne le citerai pas ici parce qu'il n'a pas forcément besoin qu'on en parle, mais qui au bout de 4-5 ans de vie aride se décourage parce qu'il libère à peine un salaire. Et donc au bout d'un certain temps, il y a un découragement qui pointe. Est-ce que au moins vous avez la possibilité de vivre de votre travail?
Eh bien, avec le RSA, ça marche.
Ouais, voilà. moi, je pense que j'ai bien appris la décroissance. Du coup, comme on travaille beaucoup, on n'a plus le temps de partir en vacances, donc on dépense pas de sous, donc on en a besoin de beaucoup moins. Comme on n'a pas besoin d'être sapé pour aller en ville ou quoi que ce soit parce qu'on n'a pas le temps, du coup, on fait des économies sur les fringues. Bon, voilà, il y a plein de choses qu'on ne fait plus et puis qu'on n'est pas malheureux parce que comme on fait un boulot où on s'épanouit, tout va bien. Maintenant, je dirais pas que... Enfin, moi, au bout de 5 ans, là, je sens là que j'ai l'impression que le décollage... Parce que ça fait un moment que je roule sur la piste de décollage. Et j'ai l'impression que là, les roues se sont un peu détachées du sol et que ça pourrait s'envoler pas mal. En tout cas, moi, depuis le début, j'arrive à payer mes charges. Enfin, voilà, j'ai jamais été dans le rouge de voir des sous à la banque ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'après, il faut arriver à... Maintenant, moi, il faut que j'arrive à dégager plus de revenus. Mais voilà.
Et toi-même, Delphine?
Moi, je suis assez contente avec ce que j'ai. Donc, pareil, hein, je...
Tu as parlé du RSA quand même, hein?
Oui, c'est vrai. Que sans ça, ce serait quand même difficile. Mais ça... Moi, je trouve que ça monte progressivement, que bah, si le RSA, ça permet de passer cette phase de transition, c'est cool. Et puis, ça avance. Bah, c'est parce qu'on transforme et parce qu'on vend. Hein, parce que c'est sûr que si ce n'était pas le cas, on serait tendu.
Et si on se laissait aller à spéculer, qu'est-ce que vous verriez comme solution, encore une fois, locale, pour aider l'installation de jeunes agriculteurs, à part effectivement des associations qui trouvent des terres? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le sort et la facilité de s'installer?
Alors, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Short tout à l'heure, c'est que ce serait une très bonne idée qu'on réunisse tous ces vieux agriculteurs de Die, qui ont certes des parcelles encore cultivées, mais que je pense qu'il y en a pas mal d'autres aussi qui ne le sont pas, ou alors qui n'ont pas besoin de toutes ces terres pour être quand même agriculteur à la MSA, et qu'ils pourraient libérer un hectare, deux hectares à louer pour le maraîchage dans le Diois, c'est quand même pas
c'est un
simple,
exploit, oui.
C'est un exploit. Mais voilà, pour notre petite exploitation, enfin voilà. Ou peut-être, ou en tout cas qu'il y ait du lien. Parce que moi, je m'aperçois que ça fait 10 ans que je suis dans le Diois. Je connais une catégorie d'agriculteurs, mais je ne les connais pas tous. Et il y en a des pleins qu'on ne croise jamais. Voilà.
Ça, c'est certain. On a une situation pas du tout... Par exemple, ici à Die, on a la Carline. C'est une coopérative, aussi un exemple, je trouve, d'une coopérative de consommateurs. Bon, on peut toujours améliorer, ils sont des choses qui vont... Mais ils ont besoin bien de légumes. Et moi, je crois que pour le moment, ils peinent à trouver localement ce qu'ils ont besoin. Et on peut... Là, on a typiquement une... Et ça peut s'agrandir encore dans les autres lieux aussi. Mais... Je veux dire, retomber sur le revenu. Il faut pas se tourner autour du pot. C'est faire de l'agriculture, faire de l'horticulture, de maraîchage, avant que tu sors un bon salaire, c'est quand même un sacré boulot. Et comme j'ai dit, c'est pas du tout soutenu comme le céréal ou le secteur élevage. Ou beaucoup moins avec les dotations des agriculteurs, bien sûr, mais en général, l'horticulture n'est pas aidée, ni le fruit, ni le plant aromatique, etc. Et ça, c'est une aberration qu'il faut le plus vite repérer, parce que quand même, avec le niveau de prix actuellement de l'alimentation, c'est très dur de sortir un bon revenu de maraîchage, ça c'est certain.
Est-ce que vous êtes entendus, vous deux, avec justement la Carline, ou est-ce que vous faites partie d'AMAP ou de groupement? Est-ce que vous arrivez à caser votre production directement, ou est-elle préachetée?
Ah non, tout en direct au marché. Quoi.
Ah, il n'y a que le marché qui te permet de vendre tes produits?
Essentiellement le marché, oui.
Bon, moi non, je pense que je fais 60% sur le marché, et puis après, il y a 40%, je vadrouille en France.
Oui. Voilà. Vous n'avez pas trouvé des points de vente? Je ne sais pas, ton type de production est fongible, non?
À consommer immédiatement.
Voilà, elle est à consommer immédiatement, ta production.
Une grosse partie, oui.
Donc tu ne peux pas l'envoyer justement en Corée du Nord, par exemple?
Bah, je vais éviter pour l'instant,
oui. Oui, une chose pour elle qui sera super, c'est que si le Martouret, qui a quand même une énorme cuisine pendant l'été, etc., pouvait payer un bon prix à elle pour des produits super, je ne sais pas où ça se fait, mais ça sera pour moi totalement logique. Mais il faut aussi penser que l'agriculture moderne, nouveau, de ce type de, comme je dis, correspondance à un entourage social, il existe une pluriactivité. On peut très bien faire autre chose à côté encore. L'agriculture n'a pas besoin d'être que agriculteur. Si tu fais partie de ton temps en autre chose, ou si tu fais des activités touristiques ou du gîte, ou même d'éducation. Moi, je crois que si on veut vraiment changer le paysage rural avec beaucoup de petites entreprises, il faut changer l'éducation en profondeur. Chaque école doit avoir un vrai volet alimentaire, environnemental, agricole. Il faut des fermes éducatives partout en France où les écoles peuvent y aller. C'est que comme ça que tu trouves encore, tu prépares une nouvelle génération de devenir agriculteur. Et dans un pays comme la France, mais dans le monde total, si on se réalise quel chômage il existe. Qu'en France, ils sont millions de jeunes qui cherchent même plus de boulot. Et on peut développer une activité qui a du sens. Mais ça ne se fait pas tout seul. C'est une utopie totale. Mais si on ne suit pas cette utopie totale, on va vers des utopies beaucoup moins agréables. Et les générations actuelles ne connaissent plus le meilleur du monde de Aldous Huxley, mais je vous conseille de temps en temps de le lire parce qu'on va beaucoup plus dans ce sens, dans notre sens.
Eh bien, c'est sur ces mots. On aimerait bien suivre votre utopie, monsieur Vartena, il n'y a pas de problème. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on pourrait trouver de l'espoir à vos paroles. Est-ce que vous êtes optimiste?
Bah évidemment qu'on est optimiste, sinon on ne serait pas là. On est optimiste parce qu'il y a quand même des choses qui bougent. Enfin, moi, je suis assez engagée syndicalement et la Confédération paysanne s'active pour justement qu'il y ait une reconnaissance des petites fermes et que ça bouge un peu au niveau national et au niveau européen. On verra bien ce que ça donne. Moi, je croise aux compagnons de la terre tous ces agriculteurs qui ont fait 2-3 ans et puis qui veulent continuer parce que ils ont trouvé leur voie et que ils ont, comme ils ont été aidés, bah, ils ont envie d'y aller plus pour de bon. Y a Delphine et puis il y a Nicolas et puis il y en a d'autres et moi je trouve ça très bien. Et puis quand on reçoit des stagiaires ou moi je pense que évidemment qu'il faut qu'on rêve le matin, à midi et le soir.
Et puis c'est un métier qui a du sens, comme vous l'avez rappelé.
Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, enfin moi, ce dont je m'aperçois, c'est que depuis 5 ans, je suis beaucoup moins énervée contre la société parce que tous les jours, je mets en pratique mes valeurs.
Superbe. Mais sur cette conclusion, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et je vous souhaite une très bonne journée.
Merci.
Merci.
Au revoir. Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Alors Delphine Poron, ça fait 5 ans que tu es en processus d'installation. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton action, s'il te plaît?
En fait, moi j'ai fait la formation pour devenir agriculteur, un BPREA. Et à la fin du BPREA, les Compagnons de la Terre sont venus se présenter au CFPPA avec 2 parcelles de terre disponibles pour des porteurs de projets. Donc mon action, elle a commencé par là, quoi. Choisir une de ces 2 parcelles. Et puis attaquer, défricher, poser une serre, poser l'irrigation, semer, arroser, récolter. Donc ça, c'était la première phase et c'était pour 2 ans. Et puis, il y a eu 1 an supplémentaire et puis j'y suis toujours.
C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun contrat qui te liait à cette terre?
Les terres appartiennent à la communauté de communes. C'était un commoda qui les liait aux Compagnons de la Terre, donc une sorte, un prêt à usage, quoi. Donc, je crois que c'était 1 an le préavis. Donc voilà, chaque année c'était reconduit tacitement, mais sans savoir si l'année suivante ça le serait encore. Et là, la communauté de communes a décidé de m'octroyer un bail agricole, ce qui fait que là, pour les 9 prochaines années, ça fait un peu de visibilité, quoi. Et ça permet de s'installer pour de vrai.
Qu'est-ce qui aurait pu te faire douter dans l'avancement de ton installation?
La période où il fallait partir, quitter les terres des compagnons et où je trouvais rien d'autre. Un petit moment de stress, ouais. Voilà. Donc jusqu'à ce que les compagnons décident de me laisser la terre, il y a eu un moment un peu tendu.
Au niveau de l'investissement en termes humains et financiers, comment as-tu pu passer le cap?
En termes humains, c'est un investissement total. En termes financiers, c'est les compagnons qui ont avancé, qui ont acheté le matériel, qui m'ont permis de démarrer sans faire de gros investissements que j'aurais pas pu faire. Et puis ensuite, par le fruit de mon travail, acheter petit à petit le matériel qu'il me faut. Et là, je fais une demande de DGA parce que c'est vrai que... À un moment donné, pour passer à la vitesse supérieure, il faut quand même avoir un peu de matériel.
Est-ce que tu peux décrire le matériel dont tu as eu besoin?
Ouais, grosso modo, serre, irrigation et motoculteur. Voilà, après c'est plein de petits matériels, mais le gros c'était ça.
Et depuis que tu t'es lancé, quel regard portes-tu sur ton installation? Est-ce que tu es contente de toi?
En constante évolution. Contente de moi, non, jamais à 100%, mais contente de faire ce que je fais, ça c'est sûr. Voilà, on apprend tout le temps.
Mais tu es optimiste quant à ton avenir?
Je lâcherai pas l'affaire.
Et alors, si d'aventure, il y avait des gens qui souhaitaient t'entendre parler de ton expérience parce qu'ils voudraient se lancer eux aussi, est-ce que tu accepterais de donner ton numéro de téléphone?
06 62 36 11 50.
Merci Delphine.
Merci à toi.
Au revoir.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.